Excellent. Presque partout. Voilà. Partout. Ça marche-tu? Il a décidé que. OK, ça marche. Bon. Petit délai, désolé. Bon, on est là. On est là. OK, bonjour tout le monde. Donc, ce matin, la semaine passée, c'était Pâques. On a célébré Pâques ensemble. On célèbre la résurrection. Donc, cette semaine, on parle de quoi? Si Pâques, c'était la semaine passée. De quoi qu'on va parler cette semaine? Il n'y avait pas de titre à côté de mon nom tantôt. De quoi qu'on parle après la résurrection, selon vous? L'ascension, je l'attendais à celle-là. C'est pas tout de suite, c'est le mois prochain, ça. Entre les deux, il y a eu quelque chose. Entre la résurrection et l'ascension, il y a eu des apparitions de Jésus. De nombreuses apparitions. Paul parle même à un moment donné qu'il est apparu à 500 frères à la fois et tout ça. Donc, je vais parler de ça ce matin, mais d'une en particulier. Celle qu'on a appelée les disciples d'Emmaüs. J'aurais pu aussi dire, comme sous-titre, « Tout était déjà planifié ». Et vous allez comprendre, si vous ne comprenez pas déjà, pourquoi j'ai ce sous-titre-là. Petite parenthèse ici, là, ma femme voulait absolument savoir hier le titre de mon message. Alors, je lui ai dit, juste à elle, c'était la seule qui le savait. Et là, j'ai vu le point d'interrogation dans ses yeux. C'est qui Emmaüs pour avoir des disciples? Emmaüs, c'est pas une personne. C'est une ville, OK? Donc, c'est la ville où il se dirigeait. On va commencer par lire le passage ensemble. Je vais prendre le temps de le faire. On va lire le passage, puis on va revenir après ça sur les versets. Donc, c'est dans Luc 24, à partir du verset 13. Début du chapitre 24 de Luc, c'est quoi? C'est la résurrection, justement. Les femmes qui vont au tombeau, et après ça, Pierre qui sera au tombeau, lui aussi, au verset 12. On arrive au verset 13, avec d'autres événements qui se produisent la même journée. Donc, c'est une semaine après, mais c'est pas grave. Donc, verset 13, « Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant? » Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant ou habitant son préféré à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi? » leur dit-il. Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. D'autres versions spécifiques l'ont livré aux Romains. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues le grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre Ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » J'arrête là. La fin du chapitre, on va le lire un petit peu plus tard. Donc, si je reviens un petit peu derrière, on a le récit ici de ce qui s'est passé. Deux disciples qui s'en vont vers un village qui s'appelle Emmaüs. Et Jésus joue à eux, mais ils ne le reconnaissent pas. Si on résume un petit peu jusque-là. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai regardé. Je me suis dit, comme il n'y a pas d'hasard avec Dieu, Emmaüs. Qu'est-ce que ça veut dire? Les deux disciples s'en vont à Emmaüs. Emmaüs, en passant, qui est éloigné de 60 stades. 60 stades, c'est quoi? Ce n'est pas des stades olympiques, là. C'est une mesure de distance. C'est à peu près 12 kilomètres. Petit calcul rapide, ça prend à peu près 2-3 heures de marche, dépendamment de la vitesse qu'on marche. Donc, 2-3 heures de marche, pour eux, ce n'est pas quelque chose de si énorme que ça. Ça se fait bien à l'intérieur d'une journée aussi. Donc, ils étaient en route à partir de Jérusalem, puis s'en allaient là. Emmaüs, comme je vous dis, j'ai cherché la définition. Je suis resté un petit peu surpris. Deux définitions possibles qui ne se ressemblent pas du tout, mais bon. La première, bien chaud. Bon, ça ne va pas dire grand-chose. La deuxième définition, par exemple, j'ai trouvé ça spécial. Peuple méprisé. J'ai trouvé ça le fun parce que, ben le fun en tout cas, les disciples sont découragés. Dans leur tête, eux autres, le Messie, celui qui devait délivrer Israël, parce que c'est ce qu'ils attendaient de Messie, les Juifs, hein? Quelqu'un qui était pour les délivrer d'Israël, délivrer Israël, pardon, des oppresseurs, dans ce cas-ci, des Romains, viennent mourir, ils sont tristes, ça le dit un petit peu plus tard, et ils s'en vont vers la ville méprisée, la ville du peuple méprisé. Hein? Ils sont abattus. J'ai trouvé ça spécial. Des petits clins d'œil comme ça de Dieu, des fois. Puis ils s'entretiennent, ils se parlent entre eux de tout ce qui s'est passé. Pendant qu'ils parlaient, le mot « entretenir » au verset 14 et le mot « parler » au verset 15, c'est le même mot en grec. Discutent ensemble. Ça peut être un grand groupe, ça peut être un petit groupe plus intime. Ils font juste parler ensemble. Rien de spécial, ben ben là. Pourquoi j'en parle? Vous allez voir tantôt. on en garde pour plus tard un petit peu. Hein? Ils discutent ensemble. Ils discutent de quoi? Ben de ce qui vient de se passer dans le verset précédent. La mort et le fait que certaines femmes et même des disciples disent que il est vivant, le corps n'est plus là. Pendant ce temps-là, il y a un homme qui arrive et qui s'approche d'eux. Il commence à faire route avec eux autres. C'est un fréquent, hein? Les longues routes comme ça. Les gens, ils n'avaient pas leurs écouteurs comme aujourd'hui, puis chacun ne se parlait pas. Chacun était sur les cellulaires, puis ne se parlait pas. Dans ce temps-là, ils se parlaient. Les réseaux sociaux étaient différents dans ce temps-là. Ce n'était pas les médias qui étaient associés, c'était les gens. Donc, il fait route avec eux, un étranger. Et ça dit au verset 16, « Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » Vous me connaissez? J'étais voir, curieux un peu. Empêchés. Et l'origine de ce mot-là, les racines de ce mot-là, qui ont donné ce mot-là, ça parle vraiment d'une force, d'une puissance. Une puissance, je vous dirais, même extérieure. Donc, c'est vraiment quelque chose de volontaire, de Dieu, de la part de Dieu. C'est pas, tu sais, il y en a qui vont se poser la question à un moment donné, y avait-il une cagoule ou quelque chose qui faisait qu'ils ne le reconnaissaient pas? Non, il y a vraiment ici une manifestation spirituelle spéciale de la part de Dieu qui fait que les disciples ne le reconnaissent pas. Ils étaient empêchés. Ils ne se sont pas empêchés eux-mêmes, ça vient de l'extérieur. Et il leur pose la question, de quoi vous entretenez-vous? De quoi parlez-vous? Et c'est le fun parce que le mot « entretenez » ici, en français, on a le même mot « entretenez » ici que verset quoi, 14, 15? Verset 14 ici. Et il s'entretenait de tout ce qui s'était passé. Pourtant, le mot que Jésus utilise ici, ce n'est pas le même mot. C'est le mot « logos ». La parole. Le même mot qui est utilisé dans Jean 1 quand on parle que la parole était Dieu. Fait que Jésus a utilisé ce terme-là. Petit clin d'œil encore une fois. Ça fait partie des choses, le fun, moi, que j'aime. Je parlais avec mes enfants, là, je fais une parenthèse, mais je parlais avec mes enfants cette semaine. Puis j'aime la parole de Dieu parce que on peut être un nouveau chrétien qui la lit pour la première fois puis voir des choses. Puis ça peut faire 50 ans qu'on la lit à tous les jours, qu'on l'a lu 25 fois, 30 fois, 50 fois, et toujours découvrir des nouvelles affaires. Plus qu'on creuse, plus qu'on en trouve. Si vous êtes au tout début, faites-vous-en pas, c'est juste normal, puis tout est correct. Mais un de mes garçons me dit à un moment donné, je l'ai lu, je la connais, là, pas besoin de la relire. Ah, plus qu'on la creuse, plus qu'on en trouve. Des petits trésors, des petits clins d'œil de Dieu comme ça. Donc, je vous encourage à continuer à la lire et la relire et la relire. L'étudier aussi, pas juste la lire. Quand le temps viendra. Chaque chose en son temps. Donc, il nous demande de quoi est-ce que vous vous entretenez. Entretenez, hein? On parle ensemble, on discute. On s'argumente. C'est ça, s'entretenir, hein? Qu'on discute ensemble. Chacun donne son opinion. C'est ce qu'ils faisaient, les disciples, sur ce qui venait de se passer, parce qu'ils se posaient des questions. T'as pas trop comment dirais-je, comprenaient pas ce qui venait de se passer, dans le fond. Donc, ils marchent vers Emmaüs, vers le peuple méprisé. Et quand Jésus pose la question, ils se sont arrêtés. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, puis là, il dit souvent ça aussi, hein? On s'imagine, on voit les choses, on visualise les choses un petit peu, comme si on voyait le film devant nous autres. Ils sont en train de discuter. Triste. Et là, ils posent la question, puis ils s'arrêtent. Quand on fait ça, là, c'est qu'on fait une pause, hein? On prend le temps de vraiment réfléchir à ce qu'on va dire, prendre le temps d'expliquer quelque chose. C'est pas juste on continue à discuter, puis on marche, puis pas de problème. Non, non, là, c'est vraiment un point marquant, là. Pour deux raisons. Un, ils sont attristés. Et deux, ils sont surpris aussi de la question, je pense. Fait qu'ils sont tristes. Un d'eux autres, il répond, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem? » Ça peut être simplement un habitant permanent, mais ça peut être juste quelqu'un de passage, hein, quelqu'un qui séjourne. T'es en vacances là. Fait juste passer. On sait que c'est à Jérusalem parce que c'est le chemin de Jérusalem vers Emmaüs. Donc, il vient de Jérusalem. Est-ce qu'il était le seul, parmi tous ceux qui ont séjourné, qui ont habité ne serait-ce qu'une journée à Jérusalem, si on peut dire, hein, qui n'est pas au courant de ce qui est arrivé ces jours-ci, les derniers jours? T'es-tu le seul à ne pas être au courant de ça? Stupéfaction des disciples. Hein? Ça nous dit quoi, ça? Ça nous dit que ça se parlait. Hein? Ça se parlait pas mal. Petite chose que je n'ai pas mentionnée dans le verset d'avant. Hein? Les disciples ici, c'est vrai. Sont tristes. Pourquoi sont tristes les disciples? C'est pas normal qu'ils soient tristes. C'est pour ça que j'ai voulu lire le passage au complet avant. Hein? Pour eux, le Messie devait les délivrer. Et là, maintenant, ça fait 3 jours, comme ils disent plus tard, que ces choses-là sont arrivées, puis il est mort. Tout notre espoir, parce que la plupart de ceux qui suivaient, là, on ne parle pas des 12 apôtres nécessairement ici, hein, ça dit des disciples. La plupart des gens qui suivaient Jésus, c'était pourquoi? Soit parce qu'ils avaient été nourris, hein, des choses comme ça, ou parce qu'ils croyaient vraiment que c'était lui, le Messie promis. Qui veut dire quoi? Qui va venir imposer son règne. Hein? Jésus parlait du royaume de Dieu. Il attendait le royaume de Dieu. Mais pas tout à fait comme ça. Il attendait la délivrance. Il attendait qu'il était pour prendre le pouvoir, puis renverser. Le pouvoir, c'était ça le Messie pour eux. Ce qu'il a fait, mais pas de la façon que ça n'attendait. Et là, ils sont tous tristes. Pourquoi? Parce que là, s'il est mort, finalement, c'était pas lui. On s'est trompé. Peut-être même que pour certains, ça a des conséquences parce qu'ils ont peut-être abandonné des choses ou pour le suivre. Ils se sont affichés, puis on sait que les autorités romaines, là, à ce moment-là, ils n'étaient pas trop pour Jésus. Hein? Donc, il y en a peut-être qui pouvaient craindre pour leur vie. Ils ne veulent pas même les apôtres à cacher dans la chambre haute à ce moment-là. Hein? Donc, ils discutaient de toutes ces choses-là, mais aussi peut-être de comment ils vont s'en sortir. Je ne sais pas. Je ne vais pas mettre des mots dans leur bouche. Chose certaine, ils sont tristes parce qu'ils voient les événements présents à ce moment-là. Ils ont les yeux fixés sur ce qui vient de se passer. Jésus, comme on va voir tantôt, les amène ailleurs. Donc, comme je disais, es-tu le seul qui n'est pas au courant de ces choses-là? C'est clair que ça se parlait. S'ils posent la question, s'ils sont tous surpris qu'ils ne soient même pas au courant, là, imaginez-vous la scène. Là. C'est un étranger, ils ne les connaissent même pas. Ils ne les connaissent même pas. Et là, il demande de quoi vous parlez, puis il est supposé de le savoir. C'est pas vrai? Si, selon eux autres, il est supposé de savoir de quoi il parle, c'est parce que tout le monde en parlait. Bon, c'est peut-être une hyperbole, il n'y a peut-être pas chaque personne dans Jérusalem qui en parlait, mais c'était le sujet de l'heure. Hein? Les disciples sont surpris de voir qu'il y a au minimum une personne qui n'est pas au courant. Donc, c'était évident pour eux. Là, il faut s'imaginer, se mettre un petit peu dans le contexte. Hein? La résurrection puis la Pentecôte qui a lieu par après, ça a eu un impact dans Jérusalem. Ça serait aujourd'hui, ça ne sera pas un événement, un tabloïd en page 10 du journal, dans le milieu, quoi que ce soit, parmi la colonne des faits divers, ça sera page 1. Hein? La nouvelle du jour. Celui que, quelques jours avant, il avait crié « Crucifie-le », il y en a qui disent que le tombeau est vide. Et là, il y a toutes sortes de théories, hein? Chacun a son opinion. Allez, ces médias sociaux, c'est facile, là, chacun a son opinion, hein? Ben, c'est apparu dans ce temps-là, c'est juste pas écrit. Donc, chacun va avoir son opinion sur ce qui s'était passé. Ah, il y en a qui disent que les disciples ont volé le corps. Ah non, d'autres ils disent que... Bon. Il y en a qui l'ont vu. Ben voyons donc, c'est impossible. Je vous donne un petit exemple. Un petit peu boiteux peut-être, mais bon, un exemple. Je ne sais pas s'il y en a un qui a entendu parler cette semaine que Cole Caulfield a scoré 50 buts. Hein? Vous avez entendu parler de ça peut-être? Il y en a pour qui ils s'en foutent complètement. Hein? Il y a plein de gens qui ne suivent même pas le hockey. Ils ne savent même pas c'est quoi le hockey. Ils ne savent pas, ça fait 40 ans, 1996, le dernier qui a compté 50 buts pour les Canadiens. Hey! Tout un événement, on en parlait partout. Juste pour le fun, j'ai mentionné ça à ma soeur vendredi soir. À ma grande surprise, elle est au courant. Elle ne suit pas le hockey trop. Hein. Pourquoi? Parce que c'était tout un événement, tout le monde en parlait. Imaginez-vous à Montréal, encore pire. Et là, on prend un petit événement tellement banal de la vie quotidienne. Et imaginez-vous comment ça devait être à cette époque-là. Un homme que toute la nation et les dirigeants avaient condamné, brutalement, et je dis bien brutalement, tué par son propre peuple, puis par les Romains. Exposé à la vue de tous. Hein? L'endroit où il était, tout le monde passait, les passants passaient, se moquaient de lui, tout ça. C'était visible, c'était connu. Tout le monde le savait. Et il y avait des foules qui le suivaient. Vous vous rappelez, à un moment donné, 5 000, à un autre moment donné, 4 000, ça, c'était juste les hommes. Il était connu. C'était pas un petit fait divers. Et imaginez-vous que cet homme-là, que tout le monde est au courant, tout le monde sait qu'il est décédé. Pour ne pas dire qu'il a été assassiné. Apparemment qu'il est vivant. On parle, ça fait des buzz pour dire, sur Internet, pour bien moins que ça aujourd'hui. Hein? Fait qu'il faut s'imaginer à quel point que les gens étaient troublés puis en parlaient. C'était pas quelque chose de caché. On voit ça parfois dans les films ou quoi que ce soit, là. Comme si quasiment la résurrection, c'était caché. Puis les disciples, quand ils ont Paul, entre autres, pas Paul, mais Pierre, pardon, à la Pentecôte, quand il est sorti, puis tout ça, ça ne fait tout un brouhaha. Tout le monde parlait de tout ça. C'était pas un fait caché. Alors, eux autres sont tous étonnés. T'es-tu le seul qui n'est pas au courant de ça? C'est évident. Tout le monde parle de ça. Y as-tu entendu une partie de la conversation avant de poser la question? Peut-être. De là, ils sont encore plus étonnés. Mais Jésus lui dit, quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? De quoi vous parlez? Il a fait ce qu'on appelle dans notre langage ici, la nouille sympathique. Il y en a qui savent de quoi je parle, hein? Ma femme pense qu'elle a inventé ce terme-là. Non. Jésus a fait la nouille sympathique. Là, il y en a plein qui vont se poser la question, c'est quoi ça? Et j'imagine nos amis en Afrique, là. Une nouille sympathique. Je vais expliquer un petit peu rapidement pour ceux qui savent pas c'est quoi. C'est tout simplement, je ne sais pas si tu vois le bon terme, mais bon, il y en a qui sont pourraient mieux l'expliquer que moi. Mais quand on feint l'innocence, on fait semblant qu'on ne sait pas quelque chose, soit parce que la personne, on veut éviter un petit peu le sujet, ou soit tout simplement, attention, si on fait la nouille sympathique avec vous autres, ou soit tout simplement parce qu'on voit que la personne, ça tente donc de nous le dire. Hein? On fait semblant qu'on ne sait pas, on n'est pas au courant de ce qui se passe. Là. On n'est pas au courant de la personne de ce qu'elle parle. C'est un peu ce que Jésus fait ici. Il sait très bien de quoi il parle, il sait très bien ce qui se passe, c'est pas pour rien qu'il a été les rencontrer. Mais il feint l'innocence, comme on dit. De quoi vous parlez? Ils répondent, mais voyons, hein? On parle de ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un prophète puissant. J'aimais ça qu'il parle d'un prophète. Ben, aimer ça, peut-être pas le bon terme. Hein, s'ils sont si tristes, c'est parce que pour eux autres, c'était le Messie, promis. Et là, il est rendu juste un prophète. Je ne sais pas si ça vous a déjà marqué quand vous l'avez lu. C'est un prophète puissant, oui, mais c'est un prophète. Ils n'ont pas dit, c'était le Christ, c'était celui qui était premier, c'était le Messie premier, non. C'est un prophète, puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Jésus l'a dit lui-même, hein, l'enseignement qu'il a donné, ça n'a pas été fait en cachette. C'était public. Il a nourri des foules, il a fait des miracles devant des foules, il a enseigné les foules. C'était pas en cachette. Tout le monde a pu le voir. Hein? En œuvre et en parole, parce qu'il a fait et parce qu'il a dit. Et bien sûr, comment il a été livré, condamné à mort, puis qui a été crucifié. Et là, voilà maintenant, on crève l'abcès, ce pourquoi ils sont si tristes. Nous espérions. On espérait, pas on pensait, on supposait que, on espérait. Hein, le proverbe le parle qu'un cœur qui est déçu par l'espoir, comment ça l'attriste. Bien, il espérait que c'était lui le roi, c'était lui le Messie. Ils l'ont suivi, là, imaginez-vous les 17 même, les 12 apôtres. Il y en a au moment donné qui ont parlé au Seigneur. Hein? Nous autres, il va nous arriver quoi, là? On t'a suivi, là. Toi, tu es le roi. Tu vas prendre le règne, là. Si je paraphrase un petit peu. Bien, nous autres, on devrait avoir des postes assez importants. Hein? On espérait qu'il était pour être élu roi et qu'il délivrait le peuple. Et par la bande, peut-être qu'on en tirait quelque chose. Hein? Je ne veux pas mettre des mots dans leur bouche, mais ceux qui suivaient, hein, il y en a qui vont pas suivre, puis qu'à un moment donné, quand il est roi, ils n'ont plus le choix. Hein? Il est rendu roi. Mais ceux qui sont vraiment ses disciples, ses fervents, ses admirateurs, qui prennent pour son parti politique, eux autres, ils espéraient peut-être quelque chose aussi. Il y aurait peut-être des positions spéciales. On espérait que ce serait lui qui délivrerait Israël. Donc, Israël n'est donc pas délivré. Mais avec tout ça, ça fait déjà 3 jours que c'est fait. Donc, mort et enterré, l'espoir aussi. Mort et enterré avec lui. La semaine passée, on en a parlé, et moi, je pense, et Stéphane. Paul disait quoi dans Corinthiens? Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Eh bien, c'est comme ça qu'il était. C'était le plus malheureux de tous les hommes à ce moment-là. Parce qu'il pensait que c'était fini là. Peut-être qu'avec ça, c'est assez pour qu'ils discutent ensemble. Mais là, ça va plus loin. Ce qui est fait se gratter la tête, oui, il y a le découragement, mais ce qui est fait surtout se gratter la tête, c'est ce qui s'est passé après. Ah! C'est bizarre, là. Il y a des femmes qui ont été au tombeau, puis qui ont dit non seulement que le tombeau était vide, mais qu'ils l'ont vu. Hein? Ils se sont rendus au sépulcre. Ils n'ont pas trouvé son corps. Ils ont dit que des anges leur sont apparus et annoncé qu'il était vivant. Il y en a même des femmes qui l'ont vu aussi. Peut-être que les disciples sont pas au courant parce qu'ils n'étaient pas là. Mais les anges sont apparus et ont dit qu'il était vivant, qu'il est vivant, présent. Et ils renseignent même que certains disciples, Pierre et Jean, on le sait par d'autres récits, qui ont été confirmés ça, et ils ont vu ce que les femmes nous ont dit, mais ils n'ont pas vu le corps de Jésus. Ils n'ont pas vu Jésus non plus. Qui va leur apparaître un petit peu plus tard dans le chapitre en passant. Alors, ils se posent des questions. C'est pour ça qu'ils discutent de ces choses-là. Qu'est-ce qui peut bien s'être passé? C'est quoi la théorie du jour? Alors, Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence! » Il ne flatte pas dans le sens du poil, comme on dit. Hein? « Et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » En d'autres termes, si je paraphrase un petit peu, les prophètes l'avaient déjà dit. Vous êtes lent à croire tout ça, à croire ce qu'ils ont dit. C'est pas, vous êtes ignorant de ce que les prophètes ont dit. Vous le savez. Vous êtes juste là à le croire. Ça vous prend du temps à le croire. Problème de foi ici, pas problème de connaissance. Vous êtes lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses? Et qu'il entre dans sa gloire. En d'autres termes, c'était prévu. C'était annoncé. Vous ne devriez pas être ébranlé. Je parle avec mon garçon ces temps-ci souvent parce qu'il écoute des vidéos, tout ça, sur la fin des temps, sur l'Apocalypse et tout ça. On ne devrait pas être étonné de ce qui se passe dans le monde. On ne devrait pas être surpris. On ne devrait pas être non plus découragé. C'est tout planifié. C'est tout prévu. Et comme la crucifixion, petite parenthèse, c'est un sujet de victoire. Pas de tristesse, pas de condamnation. C'est une victoire. Si on ne le voit pas comme une victoire, on est comme les disciples d'Emmaüs là, qui ont juste les yeux fixés sur le problème, sur ce qu'ils voient, et non pas sur ce que la foi, parce que la parole de Dieu dit. Ne fallait-il pas, il fallait que ça se produise. C'était essentiel, c'était prévu depuis longtemps. Mais c'était essentiel. Il fallait que ça arrive. Il fallait que le Christ, le Messie, si vous préférez, souffre ces choses. Si vous ne saviez pas en passant, Christ et Messie, c'est la même chose. Hein? Christ en grec, Messie, c'est en hébreu. Donc, il savait très bien de quoi il parlait quand il parlait de Christ. Qu'il souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire. Donc, ce n'est pas juste qu'il fallait qu'il souffre ces choses. Il fallait aussi qu'il entre dans sa gloire. Ce n'était pas juste prévu qu'il était pour mourir. C'était prévu qu'il était pour ressusciter aussi. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il doit être arrivé assez tôt dans la marche, parce qu'il a pris le temps de faire le tour de tout. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Privilégier les deux disciples d'Emmaüs. Un enseignement directement de la part de Jésus sur tout ce qui devait se passer, sur tout ce que l'Ancien Testament, toutes les Écritures de l'Ancien Testament à l'époque, annonçait sur lui. Pas nécessairement sur sa venue, mais là, il parle de sa mort et sa résurrection. Fait que je voulais faire un petit peu avec vous ce matin le tour aussi de ce que les Écritures disaient à propos de lui. On ne fera pas un tour exhaustif. Hop, batterie, viens-tu lâcher? Non. On ne fera pas un tour exhaustif parce qu'on n'a pas le temps. Dans mon livre, on parle d'une centaine de prophéties, mais il y en a qui parlent de 200-300 prophéties que Jésus a accomplies. Bon, pas tout au niveau de sa mort, sa résurrection. Des fois, c'est au niveau de sa venue. Ça, on n'en parlera pas. Mais on va en mentionner quelques-unes. Une chose est à noter qui est très importante ici. Nous autres, on regarde ça aujourd'hui, en 2026. On voit quoi? On voit un livre. Mais il ne faut pas oublier que ce livre-là contient 66 livres, qui a été écrit sur 1500 ans par 40 auteurs différents. Eux autres, il n'y avait pas le Nouveau Testament, bien sûr, non plus à ce moment-là. Donc, les prophéties qui concernent toutes ces choses-là, ça a été sur une longue période, par plusieurs auteurs différents. Et ça, aujourd'hui, il y en a qui vont contester ça parce qu'ils voient un livre. Mais si vous êtes historien, les historiens nient pas la venue de Jésus en passant. Ils peuvent nier la résurrection, des choses comme ça, parce qu'ils n'aiment pas ce qui est miraculeux, mais ils nieront pas la venue de Jésus. Ils nieront pas les faits qui sont mentionnés dans la Bible, Ancien ou Nouveau Testament. Parce que c'est documenté. C'est clair. Donc, l'histoire, l'ordre que la Genèse est écrite avant Malachie, par exemple, c'est clair. Pour nous, ça l'est peut-être moins. Pour les gens de l'époque, c'était très clair. OK? Donc, il faut se remémorer ça quand on va voir ces choses-là. Donc, Jésus, ici, quand il parle du récit, il commence par Moïse. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je me suis posé la question. Quand est-ce que Moïse a prophétisé sur ça? Moïse, effectivement, il a prophétisé qu'il y aurait un prophète comme lui qui viendrait. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle juste de la mort et la résurrection. Est-ce que Moïse a parlé de ça? Fait que je vais faire comme Jésus, je vais commencer par Moïse. Je n'ai pas personnellement, je ne dirais pas qu'il n'y en a pas, parce que des fois, je n'ai pas toute la connaissance non plus, hein? Mais je n'ai pas trouvé de prophétie spécifique de la part de Moïse sur ça, sur le Messie souffrant et toutes ces choses-là. Mais, j'ai quand même trouvé une couple de petites choses. Bon, la première chose, c'est pas Moïse qui l'a dit, mais il ne faut pas oublier que c'est Moïse qui a écrit le Pentateuch. Donc, ce qui est dans Genèse, c'est quand même lui qui l'a écrit, même s'il relate des événements auxquels il n'a pas assisté. Donc, commençons par le début, la première prophétie de toutes qui concerne Jésus-Christ. Genèse 3,15. Dès la création, pas longtemps après, il y a eu la chute. Et dès la chute, tout de suite, Il y a eu une séparation. Seigneur, Dieu l'a dit, tu vas mourir. Le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Il ne parle pas d'une mort physique, bien sûr, parce qu'il n'est pas mort sur le coup, mais d'une mort spirituelle, d'une séparation d'avec Dieu. Mais dès ce moment-là, il avait prévu un moyen d'en sortir. Et c'est dans Genèse 3.15 qu'on trouve ça. Je me suis longtemps posé la question, à quelle référence qui fait allusion? C'est Genèse 3.15. Lorsque Dieu parle, et à ce moment-là, il parle au serpent. Chacun a son châtiment, sa conséquence, disons-le comme ça. Et là, il parle au serpent. Le serpent, bien sûr, représente Satan, qui était rentré dans le serpent. Et lui dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme. » Toi, le serpent, et la femme. « Entre ta postérité et sa postérité. » De qui on parle ici? La postérité de la femme. Donc, on parle directement de Jésus-Christ ici, le descendant, parce que, j'allais dire, t'as mis homme, mis Dieu, ce qui n'est pas ça. 100% homme, 100% Dieu, mais choisi de venir pour être homme par une femme. Celle-ci, pas la femme, bien sûr, la postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, c'est ça ici la prophétie qui est annoncée après la chute. Pour ceux qui se posaient la question, je sais que je m'en suis posé longtemps. Donc, la postérité va écraser la tête. C'est tout simplement, bien sûr, pas une prophétie, mais une image de ce qui va se passer. C'est pas littéralement comme ça que ça s'est passé. Mais c'est quoi écraser la tête ou surtout mettre le pied, le talon sur la tête de l'ennemi? Si vous regardez comme il faut comment ça se passait dans l'Ancien Testament à l'époque et tout ça, c'est un signe de victoire. C'est un signe de domination totale. Hein? Le roi vainqueur mettait le talon, le pied sur la tête du roi vaincu. C'est un signe de domination. C'est un signe de victoire. Donc, c'est ce qu'on parle ici, qui va écraser la tête. Parce que oui, la croix, ce n'est pas une défaite, c'est une victoire. Très important. Petite parenthèse, Paul, il l'affirme dans Colossiens, ici, devant l'avoir écrit, ouais. Il parle de Jésus-Christ qui a dépouillé, mis à nu, si vous préférez, les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle. Comment? En triomphant d'elle par la croix. Par la croix, il a triomphé des dominations. On utilise souvent la seconde, hein? Mais parfois c'est plus facile. Certains versets sont plus faciles dans d'autres traductions. Alors j'ai été chercher la sommaire pour celui-là. Qui nous dit ceci? Là, il a désarmé toute autorité. Il a enlevé les armes. Désarmé, hein? Ils n'ont plus de pouvoir, ils n'ont plus d'armes, ils n'ont plus de façon de nous attaquer. Il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle. Comment ou quand? Quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Donc, il faut comprendre à l'époque, quand le roi obtenait la victoire sur un autre, c'est ce qu'il faisait. Si vous vous rappelez de l'histoire de Mardoché dans Esther, c'est un peu ça qu'il a fait. Donc, il y avait un cortège où ce que tous les peuples, le roi particulièrement vaincu, était dans le cortège, traîné à pied, enchaîné la plupart du temps, alors que le roi, lui, peut-être son capitaine, était dans un char en avant, puis était acclamé partout. Les foules venaient, puis l'acclamaient. Hein? La victoire sur l'ennemi a été faite. Donc, il appelle ça le cortège de triomphe. Bien, c'est ce qu'il a fait ici. Dans son cortège triomphal, il l'a traîné en spectacle, les autorités, tout ça, pour démontrer à quel point il avait eu la victoire. Et comment? C'est à la croix. La croix, elle n'est pas la fin. Hein? C'est le début. C'est la victoire. La mort et la résurrection, bien sûr, qui est la victoire sur la mort. Donc, le pied qui écrase la tête, c'est une image forte de la domination que la postérité, qui est Jésus-Christ, va avoir sur lui, sur la victoire qu'il va remporter. Le serpent, lui, Satan, s'est défendu tant bien que mal. La seule chose qu'il pouvait faire est écraser sous le talon, c'est le mordre. Pas grand-chose qu'il pouvait faire. Mais bon. La plupart des combats ne se gagnent pas sans combat, sans parfois blessure ou quoi que ce soit. Dieu, bien sûr, dans sa puissance, il aurait pu ne pas être blessé du tout. Mais on pense que ça fait allusion au fait que Jésus, justement, va subir la croix pour avoir cette victoire-là. Donc, à la croix, ça fait un petit peu allusion à ça, où ce que le Satan va blesser le talon dans le sens de la souffrance qu'il y a eu là, à la croix. Mais ça n'a pas du tout entaché la victoire. Il ne faut pas penser que Satan, il n'a pas rendu les âmes sans combattre. Non, non. Non, non. Dieu a permis toute chose. À ma connaissance, il n'y a pas d'autre prophétie de Moïse directement reliée à mort à la résurrection. Ceci dit, il y a des événements, des choses qui ont été établies par Moïse, par Dieu, à travers de Moïse, des événements, des éléments dans l'histoire qui pointent vers Jésus-Christ. Et un de ceux-là, c'est l'Exode. Et si vous vous rappelez à l'Exode, bien sûr, ils ont sacrifié un agneau pascal. Qu'on appelle en anglais le Passover. J'aime mieux le terme anglais qu'en français, la Pâque. Pourquoi? Parce que Passover, c'est passer par-dessus. Et c'est ce que l'ange destructeur a fait. Il a passé par-dessus les maisons. Les Israélites qui avaient mis quoi? Du sang, chaque côté de la porte et sur le haut de la porte. Du sang de l'agneau sacrifié. Et ça, bien sûr, ça fait directement référence à Jésus. Et non seulement ça, lorsque Dieu parle à Moïse, mais plus tard, dans Nombre, lorsque Moïse va instituer la Pâque, toute la façon de la pratiquer, dans les deux cas, il mentionne une chose. À propos de l'agneau, ils n'en briseront aucun os. Et ça, c'est important. Et ça, c'est repris directement dans le Nouveau Testament, faisant allusion directement à ça. Pourquoi? Donc, il y a des éléments, il y a plusieurs éléments dans l'Ancien Testament, dans la Pâque, entre autres, on en a déjà parlé, la façon qu'ils célébraient la Pâque, il y avait toute une signification. Entre autres, il y a trois pains, on prend celui du milieu et il le brise en deux. Pourquoi? Trinité, Jésus-Christ qui a été brisé à la croix, etc. Donc, il y a un paquet de symboles dans l'Ancien Testament que les Juifs ne comprenaient pas. Pourquoi qu'on a trois pains? On ne sait pas. Dieu a demandé de le faire, tout simplement. Et toutes ces choses-là deviennent claires avec le Nouveau Testament. Donc, Jean, quand il parle des prophéties, justement, de la résurrection, Jésus vient d'être crucifié avec les deux brigands à côté de lui, et ça nous dit ceci au verset 31, Jean 19, 31, « Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour », c'est un jour de sabbat comme il y avait toutes les semaines, mais là, c'est un spécial parce que c'était la Pâque. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Si vous ne comprenez pas la façon dont la crucifixion fonctionne, il était suspendu, puis les crucifiés mouraient d'asphyxie, ni plus ni moins. Ils se poussaient avec leurs jambes pour pouvoir respirer, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il n'y ait plus de force du tout, puis finissent par mourir asphyxiés. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il cassait les jambes de façon à ce qu'ils ne puissent plus se relever et donc ils mourraient plus vite. Alors, pour pouvoir rater la mort pour le sabbat, pour la Pâque, ils ont fait le tour et ils ont demandé à casser les jambes de ceux qui étaient crucifiés. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui était qui avait été crucifié avec lui. Rappelez-vous, il était crucifié avec deux brigands. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Il était déjà mort. Mais pour s'en assurer, un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, on parle de Jean, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. Il ne parle pas pour nous, il parle pas pour lui, je veux dire, il parle pour les autres, pour nous, qu'on croit. Ces choses, il dit directement, sont arrivées afin que l'Écriture soit accomplie. Aucun de ses os ne sera brisé. Et Matthieu mentionne exactement la même chose aussi. Donc, les deux ont perçu ça comme un accomplissement de la prophétie, ou de l'événement, ou de, appelez ça comme vous voulez, du fait qu'on ne brise pas les os de l'agneau pascal. L'agneau pascal qui représente la justification, qui représente dans le fond, le salut, la délivrance. Dernier verset, c'est vrai, il y a le 37 aussi. Et ailleurs, et c'est un autre verset, puis j'en parle en même temps, vu que c'est le même passage. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. On change complètement d'endroit pour les prophéties. Mais c'était juste pour terminer ce passage-là. Et ça fait directement référence à un autre passage, plus vers la fin de l'Ancien Testament, pour nous du moins, parce qu'on n'a pas le même ordre que les livres des Juifs, qui fait allusion à Zacharie, qui dit ceci de Zacharie 12:10. Alors je répandrai sur la maison de David, ça c'est Dieu qui parle, et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Il parle de la restauration ici. Et ils tourneront les regards vers moi. Là, c'est Dieu qui parle. Ils tourneront les regards vers moi, vers Dieu, celui qu'ils ont percé. Dieu s'appelle celui qu'ils ont percé. Assez spécial, hein? Ils pleureront sur lui, et là, il change, on dirait, de focus de moi à lui, comme on pleure sur un fils unique. Et pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Il met le focus sur moi, qui était percé, et sur le fils premier-né. Si ce n'est pas une allusion à Jésus-Christ, c'est quoi? Hein? D'ailleurs, je pense que Matthieu mentionne directement ce passage-là aussi, hein? Comme Jean vient de le faire, dans le fond. Ils vont tourner le regard sur celui qui ont percé. Moïse fait une autre allusion aussi, un petit peu détournée, si on peut dire, par le fait que lorsqu'on va vaincre un ennemi, exemple, on va le pendre au bois et on ne le laissera pas là toute la nuit. Pourquoi? Parce que celui qui est pendu est un objet de malédiction ou est maudit auprès de Dieu. Donc, ce n'est pas une prophétie directement face à Jésus-Christ, c'est une affirmation que une personne qui est pendue au bois, c'est parce qu'elle est maudite par Dieu. Et devinez quoi? C'est ce qui est arrivé avec Jésus. Pourquoi que les Juifs passés se moquaient de lui et tout ça? Parce qu'ils pensaient que justement, hein, il s'est dit le Fils de Dieu, il a blasphémé, puis regarde, la preuve que Dieu ne l'approuve pas, il est mort, il est maudit par Dieu, il est pendu au bois. Que ce soit la crucifixion, hein? Pas mal pendu au bois. Donc, c'est un sujet de malédiction. C'est exactement ce qui s'est passé. Et Paul se sert justement de ce passage-là lorsqu'il dit, parle aux Galates, dans Galates 3:13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, ce n'est pas une prophétie spécifique, directe, mais Dieu est au contrôle de toutes choses. Donc, s'il a déjà affirmé, il y a des milliers d'années, maintenant, qu'une personne qui était pendue au bois était maudite, c'est en prévision de ce qui était pour se passer avec son fils des années plus tard. Comme je l'ai dit, on ne fera pas le tour de toutes les références, hein, ça serait trop long. J'ai juste voulu faire un petit peu comme Jésus, puis commencer avec Moïse. Je vais y aller de façon un petit peu différente maintenant. Un des passages qui est très, très, très prophétique sur la crucifixion, le psaume 22. Psaume 22, il y a plein de références à la crucifixion, pour nous. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Mais pour nous, il y a plein de références dans le psaume 22 à la crucifixion, on pourrait tout le lire, mais je vais juste choisir certains versets. Et tout de suite, on arrive au psaume 22, verset 2, 1 étant l'introduction, qui dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Si vous avez déjà entendu ça et que vous n'avez jamais lu l'Ancien Testament, c'est parce qu'il était littéralement repris par Jésus sur la croix. Mentionné dans Matthieu, dans Jean, dans notre forme aussi, dans Marc. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Exactement ce que Jésus a dit sur la croix. Et comme je vous dis, le psaume 22 décrit un petit peu les souffrances qu'il vit, l'humiliation qu'il vit et tout ça. Donc, je pense que ça fait directement une référence aussi à la crucifixion. Mais on va sauter au verset 8. Les versets 8 et 9. Il dit, « Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. » C'est ce que les autres disent, autrement dit. « L'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. » Qu'est-ce qu'on voit dans le Nouveau Testament? Matthieu 27, 39. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête. Qu'est-ce qui est écrit ici? Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Et là, en passant, il y a des centaines, plusieurs centaines d'années entre les deux. Tout au hasard. Et ça continue, et là, tout le monde l'injurie, les chefs aussi se moquent de lui, etc., etc. Et on arrive au verset 43. Qu'est-ce qu'ils disent les chefs juifs? Il s'est confié à Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Qu'est-ce qui est écrit ici? L'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. On est loin des prophéties de Nostradamus ici, hein? Je ne sais pas vous autres, là, quand j'étais jeune, on parlait beaucoup, beaucoup de Nostradamus, puis tout ça, puis de réussir à trouver une prophétie de ce qu'il disait, ça prenait une science infuse. Hein? Ici, c'est assez clair. C'est pratiquement du mot par mot, régulièrement. Il ne faut pas oublier même que l'Ancien Testament est écrit en hébreu, puis le Nouveau en grec. Fait que parfois, c'est probablement littéralement la même chose, si on comparait avec la version grecque de l'Ancien Testament. On continue dans le psaume 22, verset 16. « Ma force se dessèche, comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. » C'est une image pour dire qu'il y avait la gorge sèche, complètement sèche, il avait besoin de boire. Alors, qu'est-ce que Jean nous dit dans son évangile? Après cela, vers la fin de la crucifixion, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, ou accompli si vous préférez, dit « Afin que l'Écriture soit accomplie, j'ai soif. » Pour accomplir toute l'Écriture, il a dit, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats remplirent une éponge et, l'ayant fixé à une branche d'hysope, une sorte de plante, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il y a deux prophéties qui ont été accomplies par cette parole-là de Jésus. J'ai soif. Celle qu'on vient de voir dans le psaume 22, et il y en a un autre dans le psaume 69-21, qui dit ici, « Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Je l'ai dit un peu plus loin, je vais le dire maintenant. Il ne faut pas oublier que pour les disciples, pour les gens qui étudiaient la Bible, il n'y avait pas le Nouveau Testament, il n'y avait pas la connaissance, toute l'interprétation qu'on a aujourd'hui. Hein? Pour eux, il y avait encore des choses qui étaient un peu masquées. Et on va revenir là-dessus tantôt. Donc, ce n'était pas clair comme ça l'est pour nous aujourd'hui. Mais toutes ces choses-là étaient déjà... Quand Paul il parle des mystères, hein, il veut dire quelque chose qui était caché avant puis qui est maintenant révélé. Bien, c'est ça. C'était caché pour eux, mais ça l'est maintenant révélé pour nous autres. Tout était déjà prévu. Si on saute au verset 19 du psaume 22, hop, 17, pardon, j'ai sauté celle-là. « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. » Allusion assez directe à la crucifixion aussi. Verset 19, « Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Qu'est-ce que ça dit dans le Nouveau Testament? Jean 19, 23, 24. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts. Une part pour chaque soldat. Donc, il était quatre soldats. Donc, ils divisent ses vêtements en quatre parts et ils prirent aussi sa tunique. Ils arrivent à sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture qui cite directement le passage qu'on vient de lire. « Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. » Voilà ce que firent les soldats. Jésus dit, « Afin que l'Écriture soit accomplie, j'ai soif. Hey, » je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette théorie-là, mais il y en a qui vont dire, « Jésus... » Je vous dirais, un bon Québécois, il est né sur de bonnes étoiles. Hein? Il a vu que sa vie, sa naissance et tout ça concordait selon les prophéties, donc il s'est arrangé pour pouvoir toutes les accomplir. Alors, il s'est arrangé pour telle chose, que telle chose se produise. Et là, il a dû soudoyer bien du monde, parce que là, il arrive sur la croix, puis même sur la croix, alors qu'il est sur le bord de mourir, sans force, ce que les autres font accomplit les prophéties. Pas pire, hein, pour un simple homme, parce que n'oubliez pas ceux qui vont dire ça, c'est un simple homme, hein, il n'y a aucun pouvoir. Impossible. Hein. On ne peut pas expliquer ça. Comment ça se fait que les gens ont tout accompli si c'est un simple homme? Tout était contrôlé par Dieu. Tout était voulu par Dieu. Tout était planifié, prévu, comme j'ai dit tout à l'heure. On va quitter le psaume 22. Il y a eu d'autres prophéties. Toutes les choses sont prophétisées. Hein? Le montant d'argent que Judas, ben, que le fait que c'est un ami qu'il trahisse, même le montant d'argent qu'il a reçu, les 30 pièces d'argent, tout ça, c'était prophétisé. Et en plus de tout ça, le fait qu'avec cet argent-là, après, il achète le champ du potier. Littéralement, toutes ces choses-là étaient prophétisées dans l'Ancien Testament. On va prendre deux minutes pour le lire. Psaume 41,9. « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Rappelez-vous, hein, Jésus a pris un morceau de pain pour le donner à Judas. Assez littéral. Zacharie 11, verset 12-13, je leur dis, « Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. » Et ils pesèrent pour mon salaire combien? 30 sicles d'argent. Qui, en passant, était le prix pour un esclave. L'Éternel me dit, « Jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. » Et je pris les 30 sicles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Parallèle dans le Nouveau Testament, Matthieu 26, 14, 15. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariot, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai? » Et lui payèrent 30 pièces d'argent. Chapitre 27. Judas, verset 6, ramène les pièces dans le temple parce qu'il avoue avoir tué un innocent, livré un innocent. Eux autres se disent, c'est ton problème, c'est pas le nôtre. Hein? Et Judas s'en va se pendre. Après ça, on arrive au verset 7. Et après avoir délibéré, ils ont délibéré entre eux autres pour savoir qu'est-ce qu'ils feraient avec cet argent-là, parce qu'ils ne pouvaient pas le mettre dans le temple, le remettre dans le trésor du temple, puisque ça s'est servi pour le sang, la trahison. Donc, après avoir délibéré, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Quel hasard! Un champ du potier. Ça semble pas mal à ce qu'on avait dans Zacharie. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour, à cause qu'il est acheté avec l'argent du sang. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de ce qu'il y avait, de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Et il y en a plein d'autres, comme je disais, on ne prendra pas le temps de toutes les lire. Hein? Mais tout ça, ce sont des prophéties sur la mort de Jésus. Est-ce qu'il y en a sur sa résurrection? Bon, parenthèse que j'ai mis ici. Comme je disais tantôt, c'est facile pour nous autres, avec le recul maintenant, avec le Nouveau Testament, c'est plus facile, avec le Saint-Esprit aussi, bien sûr, de comprendre ces choses-là que les autres ne comprenaient pas. Hein? Je vous faisais allusion à ça tout à l'heure. Paul dit dans 2 Corinthiens 3, versets 14 à 16, « Mais ils sont devenus durs d'entendement. Jusqu'à ce jour, là, il parle des Juifs, jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Le voile qui est masque, qui les empêche de comprendre. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Plein de gens essaient de lire la Bible, essayer de la comprendre. Je me rappelle un professeur à l'école à un moment donné, puis « Ah, c'est beau la Bible, j'aime ça la lire, c'est de la poésie et tout ça. » Mais il y a des affaires que je ne comprends pas des fois. Bien, c'est sûr, ça ne s'adresse pas à toi. C'est juste en Christ que le voile disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Donc, Jésus a prophétisé sa mort, mais aussi sa résurrection. Mais là, on ne parle pas de Jésus, on parle de l'Ancien Testament. Est-ce qu'il y a des passages qui en parlent? Ce n'est pas aussi direct que la crucifixion. Je vais être honnête avec vous autres. Il y a quelques passages qui font allusion. Je vais essayer de passer assez vite là-dessus parce que le temps avance. Le psaume 16, versets 8 à 11. « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne s'en sèle pas. » Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Bon, je lis le passage au complet parce que quand il est cité dans le Nouveau Testament, c'est le passage au complet. Mais c'est bien sûr, ça ne faisait pas allusion à quoi que ce soit dans le premier verset-là. Mais verset 10, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » C'est David qui parle ici en passant. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Et ce passage-là est littéralement cité par Pierre à la Pentecôte. C'est pour ça que je lis les trois versets, parce que c'est ce qu'il fait. Donc, Pierre va citer ça directement à la Pentecôte, mais il va faire une petite différence. Il va remplacer ici ton bien-aimé, parce que lui, il cite en grec en passant, il va remplacer ton bien-aimé par ton saint. Donc, je pense que les Juifs le comprenaient comme ça, que ça faisait allusion, et pas mais Pierre, d'ailleurs, en parle, que ce n'est pas de David qu'on parle ici, mais bel et bien du Messie. Donc, c'était déjà prophétisé qu'il ne verrait pas la corruption. Psaume 68, 18. Il parle de l'ascension ici. « Tu es monté dans les hauteurs, tu as amené des captifs. Tu as reçu des dons pour l'homme. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. » Et ça aussi, c'est cité par Paul dans Éphésiens 4, 8. Quand il parle des dons de l'Esprit, il cite exactement ce passage-là. Isaïe 53, bien sûr, fait allusion beaucoup, beaucoup à serviteur souffrant, à Jésus-Christ. Isaïe 42 aussi et d'autres comme ça. Rapidement, verset 10 à 12, « Après avoir livré sa vie à sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands et partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. » Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Alors, je vous pose la question ici. Comment est-ce qu'il peut voir une postérité, prolonger ses jours? Comment est-ce que l'œuvre de l'Éternel peut prospérer entre ses mains? Hein? Comment est-ce qu'il peut justifier des hommes, etc., s'il est mort? Seul moyen de voir une postérité, de prospérer tout ça, c'est qu'il soit vivant. Donc, c'est une référence indirecte au fait qu'il va être vivant. Et pourtant, il vient de dire « par sa mort ». Donc, il est mort. Il n'était pas juste dans le coma en passant. Il est bel et bien mort. Mais il va justifier, il va faire ci, il va faire ça. Ce n'est pas juste un esprit. Il est bel et bien ressuscité. Et il va justifier aussi beaucoup d'hommes. Ce n'est pas juste par sa mort. C'est par le fait qu'il est vivant, qu'il intercède pour nous auprès de Dieu. C'est ce que Paul mentionne, pas Paul, mais l'auteur des Hébreux, peut-être Paul, peut-être un autre, mentionne dans Hébreux 7, 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement, pas juste une partie, parfaitement, il peut sauver parfaitement. Pourquoi? Ceux qui s'approchent de Dieu, parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ça prend ça pour le salut. Il n'y aurait pas de salut s'il ne sera pas vivant pour intercéder en leur faveur. Donc, ce qui est mentionné dans Isaïe 53 fait allusion à ça aussi. Donc, si on revient dans Luc pour conclure, après que Jésus leur a expliqué tout ça, tout d'un coup, les yeux s'ouvrirent. L'espèce de puissance qui les empêche de le voir disparaît, et là, ils le reconnaissent. Mais Jésus disparaît de devant eux. Et là, il mentionne, est-ce que nos cœurs ne brûlaient-ils pas dedans de nous quand tu parlais en chemin, hein? Dans le verset 32. Et là, qu'est-ce que les disciples font? Ils ont vu Jésus, il leur a expliqué, ils ont compris. Il y a un feu qui brûlait dedans d'eux autres. Et là, ils ont reconnu que c'était Jésus, donc il était vraiment ressuscité, que tout ce qu'il leur a dit, c'était vrai. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Ils sont allés se coucher et ils ont dormi tranquillement. Non! Aussitôt, à l'heure même, ils ont rebroussé chemin, ils sont retournés à Jérusalem, ils en ont parlé avec les disciples, ils en ont parlé partout autour d'eux pour annoncer cette chose-là. Hein? Tout de suite, ils ont annoncé la bonne nouvelle. Et je vous pose la question, nous, si on a compris les Écritures, si on a compris que le Seigneur est mort, ressuscité pour nous, puis même que c'était prévu, et qu'il nous a pardonné, est-ce qu'on va le garder pour nous autres mêmes ou si on va faire comme les disciples d'Emmaüs et on va aller le partager? Donc, je conclue là-dessus et je vais inviter l'équipe de louange pour le dernier chant.